money, solo money, solo money, da show. Lo money, solo money, da show. Lo money. Discrimination in the world.
Why discrimination in the world?
Radio de la paix, il est 7h. Le journal de 7h, César Yao.
Bonjour à tous, tout de suite le sommaire de ce mardi 7h. Neto, il est président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Lido dénonce la loi d'amnistie de 2018 prise par le chef de l'État, graciant des personnalités impliquées dans la crise post-électorale de 2010. Il estime que cette ordonnance est une violation des droits des victimes et envisage de saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Vous l'entendrez dans ce journal. Abidjan abrite depuis hier lundi le tout premier sommet annuel du capital investissement et du capital risque, un forum pour réfléchir sur des actions permettant une meilleure structuration de l'économie ivoirienne en particulier et sous-régionale en général. Dans l'actualité internationale, le vainqueur annoncé de la présidentielle au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, a effectué une apparition publique hier soir après l'annonce de sa victoire dès le premier tour du scrutin. Il s'engage, n'est-ce pas, à gouverner, entre autres avec humilité, dans la transparence et combattre la corruption à toutes les échelles. Il a lancé à la communauté internationale que le Sénégal tiendra toujours son rang. En fin d'édition, l'invité de la rédaction, Dr Adama Sadio, politologue sénégalais, décryptera avec Jean-Claude Comé les résultats de la présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal. Mais avant, aussi Potin passera en revue les titres des journaux ivoiriens du jour. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Les ONG de défense des droits de l'homme envisagent de saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour contester la loi d'amnistie de 2018, graciant des personnalités impliquées dans la crise post-électorale de 2010, dénonçant un excès de pouvoir du chef de l'État, Neto Willy, président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Lido estime que cette ordonnance est une violation des droits des victimes. L'écoutons.
Depuis, je crois, août 2018, le président de la République a pris une ordonnance d'amnistie pour amnistier en fait tous les faits qui se sont déroulés pendant la crise post-électorale. Et nous qui sommes aux côtés des victimes depuis 2012-2013, nous avons estimé premièrement que cette ordonnance-là violait les droits des victimes que nous représentions aussi. Et à cet effet, nous avons donc introduit un recours pour excès de pouvoir contre cette décision du chef de l'État. Parce qu'on estime que la loi qui a été visée pour prendre l'ordonnance d'amnistie était illégale, en ce qu'elle donnait habilitation au chef de l'État de prendre des ordonnances, sinon une ordonnance en matière économique et financière et non en matière judiciaire. Et c'est justement dans ce cheminement, dans cette procédure-là, que le 21 mars dernier, le Conseil d'État s'est déclaré incompétent par rapport à notre saisine. Nous avons donc opté pour la Cour de justice de la CEDEAO pour essayer d'obtenir alors réparation.
Et donc, que dit la CEDEAO face à votre requête?
On ne l'a pas encore déposée, on a juste rédigé la requête et on va l'actualiser en fonction des derniers éléments que nous venons d'avoir, notamment la décision d'incompétence de la Cour du Conseil d'État.
Voilà l'instant net où le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, Lido, était avec Christelle Yesso. Direction d'Aloi présent dans le cadre de la coordination des actions de lutte contre le travail des enfants dans le Haut-Sassandra. La Direction générale du travail à travers le système d'observation et de suivi du travail des enfants a organisé avec les différents acteurs impliqués dans la lutte une rencontre pour faire le bilan des activités de coordination et échanger sur un plan d'action commun contre le travail des enfants. On en parle avec Jean-Noël Kwame.
Le directeur régional du travail du Haut-Sassandra, Yukakula Hyacinthe, coordonnateur régional du système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire, Sostesi, a demandé aux acteurs et aux responsables communautaires de tout mettre en œuvre pour la protection et la lutte contre le travail des enfants.
L'enfant ne peut pas abandonner l'école au profit des travaux champêtres. Il y a des travaux qui sont dangereux pour la santé de l'enfant. Ces travaux-là, l'enfant ne doit pas les faire. Vous l'exposez à des risques, à des dangers. Après les sensibilisations, il y a aussi les sanctions. Si les parents et les communautés ne veulent pas écouter, nous allons procéder à des sanctions. Et donc, tout ce que nous allons voir en train de maltraiter les enfants, en train d'exposer les enfants aux pires formes de travail des enfants, ils subiront la rigueur de la loi.
Maxime Loès, chef de bureau de la Fondation Internationale Coco Initiative, partenaire au projet, a présenté un plan d'action afin de mieux lutter contre les pires formes de travaux dangereux pour les enfants dans la région du Haut-Sassandra.
On va essayer de renforcer les capacités opérationnelles de certains acteurs pour changer les mentalités, pour que ces enfants qui sont l'avenir de demain là, puissent avoir beaucoup plus d'opportunités pour aller à l'école dans un environnement où leurs droits sont respectés.
Créé par décret en janvier 2020, le SOSTECI est un mécanisme national de veille, d'alerte précoce, d'intervention et de décision dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Jean-Noël Kwame, d'Aloa, Radio de la Paix.
À présent, le nord de la Côte d'Ivoire, notamment à Korogo, la première session du Conseil régional du Port au titre de l'année 2024 s'est tenue samedi dernier au centre culturel Womienyon, sous la présidence de Fidèle Broton Sarasoro et la supervision du préfet de région, préfet du département de Korogo, sur les grandes lignes de la séance. Écoutons Fidèle Broton Sarasoro.
D'abord, premièrement, nous avons tenu aujourd'hui la première session du Conseil régional pour l'année 2024. C'est une session qui s'est consacrée essentiellement au budget et à l'exécution du budget 2023 et également aux projections pour 2024. Nous avons enregistré une très forte participation des conseillers régionaux. Les débats ont été très vifs, très intéressants. Il y a eu des échanges fructueux. Et aujourd'hui, moi, je suis satisfait par la qualité de cette réunion. Nous avons également abordé la question de l'emploi et de la formation des jeunes. Les perspectives sont excellentes. Nous avons des initiatives en cours et nous sommes sûrs que dans les mois à venir, toutes ces initiatives vont être concrétisées. Par la suite, nous avons procédé à la remise de deux ambulances à Tawara et à Sekonka. Ce sont des promesses de campagne qui avaient été faites. Les populations avaient formulé ces besoins au préfet et moi-même lorsque nous étions en campagne électorale. Et par notre entremise, nous avons pu avoir ces ambulances-là auprès de la LUNACI. Et aujourd'hui, nous avons procédé à la remise de ces ambulances.
Voilà, c'était le président du conseil régional du Poro, Fidèle Broton Sarasoro, qui était au micro de Tommy Corona. Abidjan abrite depuis lundi matin le tout premier sommet annuel du capital investissement et du capital risque, un forum dédié aux chefs d'entreprise et aux investisseurs afin de réfléchir sur des actions qui permettront une meilleure structuration de l'économie ivoirienne en particulier et sous-régionale en général. Linda Pali était à la cérémonie d'ouverture, voici son compte-rendu.
Sur l'objectif de ce forum, écoutons son commissaire général Jean-André Aipo Aipo.
L'objectif de notre forum, c'est de permettre que les investissements privés, à travers donc les fonds de capital risque et de capital investissement, puissent à leur tour devenir un moteur de financement de l'économie ivoirienne et ouest-africaine.
Comment justement accompagner les investisseurs dans la structuration de l'économie ivoirienne? La réponse avec le directeur général des impôts qui co-animait le premier panel portant sur fonds d'investissement et marché boursier, quelle chaîne de valeur optimale de l'État, Ouattara Sié Abou.
En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, plusieurs mécanismes ont été mis en place en fonction de la spécificité. Les avantages vont de l'exonération de l'impôt sur le bénéfice, l'exonération des droits d'enregistrement si les opérations d'augmentation, de réduction de capital ou de même de dissolution d'une entreprise qui aura été accompagnée par une autre investisseur et à l'impôt sur le bénéfice.
Pour sa part, Dr Edo Kossi Amenounve, directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, a appelé l'État à favoriser le développement de ce type d'investissement, suggérant que
les États accordent aux fonds d'investissement qui sortent par la bourse une défiscalisation des plus-values de cession. Je pense que si on arrive à ça, ça peut être une disposition législative et fiscale qui va favoriser les sorties par le marché.
Au sortir de ce forum, un livre blanc sera édité et présenté aux autorités afin de trouver des solutions pour optimiser le secteur capital investissement, capital risque.
Journée mondiale de l'eau à présent à l'ouverture d'un atelier de vulgarisation du nouveau code de l'eau à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau vendredi dernier à Abidjan. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a invité les différents acteurs à s'approprier ce nouveau code pour une utilisation des ressources en eau respectueuse de l'environnement pour la paix et la prospérité. Les défis et enjeux liés au nouveau code de l'eau ont été présentés pour permettre une appropriation de cet instrument juridique par les acteurs du secteur et l'ensemble des populations ivoiriennes. Voici un extrait de son intervention.
Saisissant l'ampleur et les enjeux de la question sur l'eau, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, et son gouvernement ont mis en œuvre plusieurs initiatives visant une meilleure gestion des ressources en eau et la résolution de potentielles crises entre les communautés. Ces initiatives ont abouti à la promulgation de la loi portant code de l'eau pour prendre en compte les défis actuels qui s'imposent en matière de gestion des ressources en eau. La promulgation du nouveau code de l'eau traduit à nouveau l'engagement du gouvernement à porter les préoccupations liées à l'eau comme enjeu majeur dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Ayant pris la mesure de la volonté affichée du gouvernement dans le secteur de l'eau et pour permettre une appropriation de cet instrument juridique par les acteurs du secteur et l'ensemble des populations ivoiriennes, le ministère des Eaux et Forêts a décidé d'organiser le présent atelier de sensibilisation et de diffusion du nouveau code de l'eau à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau.
Voilà à l'instant Laurent Tchagba, le ministre ivoirien des Eaux et Forêts. À présent, la revue des titres des journaux ivoiriens. Non, ce n'est pas la revue des titres des journaux ivoiriens, n'est-ce pas, Poutin? On va retourner à l'actualité internationale. Élection présidentielle au Sénégal. Le cinquième président de la République du Sénégal sera Bassirou Diomaye Faye, le candidat anti-système qui, n'est-ce pas, en attendant la confirmation de sa victoire par la Commission électorale nationale autonome et le Conseil constitutionnel a reçu les félicitations des autres candidats, notamment Damadou Bam, candidat du pouvoir. Voilà, et puis on va écouter donc précisément la déclaration, n'est-ce pas, du nouveau président élu Diomaye Faye.
En élisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture pour donner corps à l'immense espoir que notre projet de société a suscité et donner corps à ses aspirations. Je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption à toutes les échelles. Je m'engage à me consacrer pleinement à la refondation de nos institutions et au renforcement des fondements de notre vivre ensemble. Je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu'ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration de la CEDEAO tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques. Je mènerai des actions similaires avec la même abnégation pour l'unité et l'intégration politique et économique du continent. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. J'ai une pensée pour les femmes et les jeunes, une partie, un importante des ressources de la nation sera mobilisée pour abréger leur souffrance et leur manque de perspective. Au vu des urgences qui étreignent et de l'espérance placée en nous, nous travaillerons de manière acharnée et méthodique autour des chantiers prioritaires dont les plus importants à nos yeux sont la réconciliation nationale et la reconstruction des bases de notre vivre ensemble, la refondation des institutions, l'allègement sensible du coût de la vie.
Voilà le président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, au micro de notre correspondant à Dakar, Abdourahmane Diallo. À présent, la revue, n'est-ce pas, des titres des journaux ivoiriens avec Aoussi Potin. Voilà, Aoussi Potin, une actualité dominée par celle de l'international élection de Bassirou Diomaye Faye, n'est-ce pas?
Bonjour César, effectivement, comme vous le dites, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc à 44 ans, il devient effectivement donc le plus jeune président élu de l'histoire moderne du Sénégal, après des aînés et des icônes hein, comme Léopold Sédar Senghor et Abdoulaye Wade, en passant par Abdou Diouf. Une élection qui trône et à la première place dans les titres de une de nos tabloïds parus ce jour. Commençons par le quotidien Notre Voix qui nous propose une dépouillée, c'est vrai, mais très parlante, avec une photo du duo gagnant au Sénégal, Sonko Diomaye, avec le titre suivant, Bassirou Diomaye Faye, nouveau président du Sénégal, bravo, écrit tout simplement donc à sa une, Notre Voix. Et puis pour le nouveau réveil, il s'agit donc des leçons d'une révolution par les urnes, selon ce quotidien. Et puis du côté du quotidien Le Jour, l'on parle donc simplement eh bien, d'une victoire inédite de Bassirou Diomaye Faye à cette présidentielle sénégalaise. Le quotidien L'Inter propose une interview du politologue ivoirien Geoffroy Julien Kouaou qui indique, et nous le citons, qu'avec donc cette victoire de Bassirou Faye au Sénégal, c'est le crépuscule de la France-Afrique. Fin de citation. Toujours dans le sens de tirer les leçons de cette élection, le quotidien d'Abidjan, pour sa part, indique qu'il s'agit donc il faut faire une lecture du moins de la gestion des pouvoirs d'État en Afrique de l'Ouest. Et selon le dit quotidien, cette lecture amène à la conclusion suivante, avec son titre de une, la montée en puissance des jeunes leaders. C'est vrai, une élection, on ne va pas dire inattendue, parce que les plus avertis s'y attendaient plus ou moins. Élection qui apparaît donc comme un vote sanction du pouvoir qui est précédent. Pour Fraternité Matin, le quotidien gouvernemental, une question essentielle demeure et le quotidien la pose. Sénégal présidentiel 2024, Sonko Diomaye, quelle gestion du pouvoir? Et puis toujours avec le Sénégal, si vous voulez en savoir plus sur le nouveau président, savoir donc Bassirou Diomaye Faye, eh bien tournez-vous vers Soir Info qui nous propose simplement ce qu'il faut savoir sur Bassirou Diomaye Faye. Terminons César, en revenant à nos réalités bien ivoiriennes, avec déjà certains journaux qui se projette hein, dans la présidentielle de 2025. Ainsi, le rassemblement parlant de la présidentielle 2025 titre « Gbagbo candidat malgré tout », comme pour dire eh bien c'est du forcing. Le Matin, lui aussi titre « Présidentielle 2025 », l'opposition refuse le combat face à Ouattara. Et parlant donc de toujours cette élection 2025, pour le quotidien Le Temps, eh bien, à travers une interview exclusive de M. Abou Cissé, eh bien, Gbagbo serait le candidat de la Côte d'Ivoire.
Voilà, à l'instant, la revue des titres des journaux ivoiriens avec Aoussi Potin, sans transition. À présent, l'invité de la rédaction, élection présidentielle au Sénégal, justement, le cinquième président de la République du Sénégal sera Bassirou Diomaye Faye, le candidat anti-système qui, en attendant la confirmation de sa victoire par la Commission électorale nationale autonome et le Conseil constitutionnel, a reçu les félicitations des autres candidats, notamment d'Amadou Ba, candidat du pouvoir, qui a salué également la grandeur de la démocratie sénégalaise. Docteur Adama Sadio, politologue sénégalais, décrypte ici ses résultats de la présidentielle. Il répond aux questions de Jean-Claude Comé.
Docteur Adama Tchadio, bonjour.
Bonjour.
L'élection au Sénégal, depuis le 24, les choses sont en train de se préciser. Un nom en train de sortir, c'est Diomande Faye, qui sera le cinquième président donc, du Sénégal, avec cette reconnaissance de pratiquement tous les candidats. Vous qui êtes là-bas, vous confirmez déjà ces tendances?
Oui, en fait, ces tendances, c'est depuis dimanche soir, pratiquement, tous ceux qui ont suivi de près, en fait, la diffusion des résultats savaient que c'était des tendances lourdes et que, vraisemblablement, il n'y aura que sur le tour et que M. Diomande Faye est élu cinquième président de la République du Sénégal, même si, encore une fois, ce ne sont pas des résultats officiels, parce que les résultats officiels au Sénégal, c'est la Commission nationale de recensement des votes et enfin le Conseil constitutionnel qui donne les résultats officiels au Sénégal.
Mais déjà au soir donc du vote, hein, certains candidats, des candidats de poids avaient indiqué que voilà, le cinquième président sera donc Diomande Faye. Pourquoi un tel résultat? Premier tour déjà, un nom qui sort.
Oui, parce qu'en fait, le président Macky Sall et son régime ont perdu le pouvoir depuis les événements de mars 2021. Avec ce rejet dans la rue, donc les manifestations et autres, c'était des manifestations en réalité qui symbolisaient en fait le rejet de la gouvernance de Macky Sall. Et donc ces manifestations dans les rues s'est après concrétisé dans les urnes lors des élections locales du janvier 2022 et lors également des élections législatives de juillet 2022. Donc, en réalité, cette élection présidentielle n'est rien d'autre qu'une confirmation d'une dynamique enclenchée lors des événements de mars 2021. Donc, à mon avis, ce qui a le plus fait perdre le président Macky Sall, c'est à un moment donné cette détermination à en finir définitivement avec Ousmane Sonko. Et vous voyez que même si Sonko n'est pas candidat, mais il a réussi à placer son secrétaire général, qui est devenu aujourd'hui le cinquième chef de l'État du Sénégal.
Décryptage justement de cette mobilisation de la population pour choisir donc cette rupture quant à la continuité. Quel message cela renvoie?
Oui, cela renvoie à ce que le peuple sénégalais, il y avait l'usure du pouvoir parce que le président Macky Sall a fait 10 ans. En fait, quand je dis le président Macky Sall, même si lui il n'est pas candidat, mais quand même celui qui est candidat dans son camp, c'est lui-même qui l'a choisi. Il y a également bon, les conditions socio-économiques des populations sénégalaises, même s'il y a des infrastructures hein, qui sont faites par le chef de l'État Macky Sall. L'autre chose aussi, c'est l'attachement du peuple sénégalais à la liberté. Vous savez, le Sénégal a un peuple qui a une longue histoire d'amour avec la liberté. Et cela, c'est bien avant l'indépendance. Et à un moment donné, la gouvernance de Macky Sall, qui était basée sur la persécution policière et de la gendarmerie, et surtout une persécution judiciaire avec les emprisonnements à Touba, certainement aussi cela a beaucoup contribué au rejet de l'opinion publique nationale sénégalaise pour le régime du président Macky Sall.
Le futur président de la République du Sénégal a moins de 50 ans. Pour vous, quel signal cela renvoie?
Oui, mais il faut rappeler que même si Diomande Faye sera le plus jeune chef de l'État jusque-là de l'histoire du Sénégal, mais je voudrais vous rappeler que Abdou Diouf est venu au pouvoir à l'âge de 45 ans. Macky Sall est venu au pouvoir à 48 ans, etc. Mais tout de même, reconnaissons que oui, il est le plus jeune, donc il a 44 ans, mais cela tout simplement signifie que les Sénégalais ont envie de changement et aussi, rappelons que plus de 70% de la population sénégalaise également est composée de jeunes. Donc si aujourd'hui c'est un jeune qui vient au pouvoir, et compte tenu donc de la démographie sénégalaise, on pouvait tout simplement dire que c'est normal. Mais l'autre chose également à comprendre, c'est que peut-être que ce qui était là, qui symbolisait la vieille classe politique, peut-être que les populations ne sont pas satisfaites de la manière avec laquelle elles ont géré le pays depuis l'indépendance et le peuple aujourd'hui a envie de voir autre chose.
Alors on peut dire que la démocratie sénégalaise a résisté encore avec le Conseil constitutionnel qui est resté stoïque hein, par rapport donc à l'analyse des textes. Ensuite, aujourd'hui des candidats qui très tôt saluent donc un élu. Comment vous, en tant que Sénégalais, vous traduisez cette attitude hein, de ces candidats?
Oui, c'est vrai qu'il y a de cela un mois, hein, la démocratie sénégalaise hein, a vécu certainement l'une des pages les plus sombres de son histoire. Mais l'attitude du Conseil constitutionnel, la mobilisation exceptionnelle du peuple sénégalais, de la société civile sénégalaise, montre encore une fois ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'attachement du peuple sénégalais à la démocratie.
Alors, pour vous, aujourd'hui, quel pourrait être l'avenir du Sénégal quand Bassirou donc, va co-gérer avec, on peut dire, son mentor? Comment entrevoyez-vous là l'avenir en termes de gestion?
En fait, oui, c'est vrai. La vie politique africaine nous réserve énormément de surprises. Hein. Toutes les hypothèses sont possibles. Peut-être que lui et Diomaye essaieront de se mélanger pour qu'il n'y ait pas de tension après. Mais de toute façon, comme le disait le président Gbagbo, le fauteuil du chef d'État, ce n'est pas un banc, c'est un fauteuil. Donc, il doit être beaucoup plus galant et prendre un peu de distance et reconnaître que Diomaye, même s'il était son petit, mais aujourd'hui, c'est lui le chef de l'État.
En tout cas, merci à Adama Sadio pour cette analyse.
C'est moi qui vous remercie. Merci.
Voilà, docteur Adama Sadio, politologue sénégalais, décryptait les résultats de la présidentielle du 24 mars 2024. Il répondait aux questions de Jean-Claude Comé. Voilà qui referme les pages de ce journal, le rappel des titres. Neto Willy, président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, Lido dénonce la loi d'amnistie de 2018 prise par le chef de l'État, graciant des personnalités impliquées dans la crise post-électorale de 2010. Il estime que cette ordonnance est une violation des droits des victimes et envisage de saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Abidjan abrite depuis plusieurs lundis le tout premier sommet annuel du capital investissement et du capital risque, un forum pour réfléchir sur des actions permettant une meilleure structuration de l'économie ivoirienne en particulier et sous-régionale en général. Enfin, dans l'actualité internationale, le vainqueur annoncé de la présidentielle au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, a effectué une apparition publique hier soir après l'annonce de sa victoire dès le premier tour de scrutin. Il s'engage à gouverner entre autres avec humilité dans la transparence et combattre la corruption à toutes les échelles. Fin de cette première édition de l'actualité sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous à 8h.
Radio de la Paix. Se parler. S'écouter. Se comprendre.